Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si en temps de crise se jouait toute notre vie? Ni caprice, ni paresse, ni même abandon, mais courage. Le courage d'affronter une question cruciale, la seule qui vaille. Comment continuer quand tout nous arrête? Où trouver l'envie de rester en vie? Pour l'écrivain Frédéric Boyer, la réponse tient en une phrase, en un lieu plutôt. Là où le cœur attend, c'est aussi le titre de son dernier livre. Elle est en route sur les chemins de la philosophie.
J'éterrais ici les raisons qui m'avaient conduit à cette chute. Je me traînais d'une chaise sur une autre en disant « c'est fini », mais sans trouver de point final. Je n'attendais plus rien que de mélancoliques affaissements dans des fauteuils ou sur le sol d'une chambre. Mais c'est cela que je veux rappeler pour l'intérêt de ce petit livre. Il n'y a qu'une voie pour perdre sa place au monde, c'est d'avoir le sentiment d'être arrivé là d'où littéralement on ne peut plus bouger. D'avoir atteint l'inconfortable situation où même la chute est déjà derrière nous. C'est la certitude d'avoir perdu cette force qui nous pousse, qui requiert, qui suggère, qui invente, et qui nous dit que par un autre que nous, elle ne pourrait être exécutée. C'est ne plus avoir la ressource nécessaire, intime et pulsionnelle, de chanter le chant qui a pour nom encore une fois et qui veut dire à tout jamais.
Bonjour Frédéric Boyer.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. C'est un plaisir de vous recevoir à ce micro. Vous y étiez venu l'an dernier pour nous parler de Kama Sutra, un tout autre sujet. Aujourd'hui, vous venez parler de votre dernier livre, Là où le cœur attend. Vous venez d'en lire un extrait, ce que vous décrivez, ce point où littéralement nous ne pouvons plus bouger, nous n'avons pas la voix pour le nommer. C'est ce que Kierkegaard, dont nous avons parlé toute la semaine sur les chemins de la philosophie, appelle le désespoir. Lui, Kierkegaard propose une solution, un remède qui est le sceau de la foi. Trouver en soi les ressources d'ouvrir d'autres possibles quand, par définition, le désespoir nous bloque tous les possibles. Est-ce que, premièrement, le terme de désespoir correspond à ce que vous décrivez? Deuxièmement, avez-vous une solution à vous?
Je n'ai sûrement pas de solution, mais effectivement, et même je ne pense pas que Kierkegaard en avait une en fait. Mais...
Bon, on y reviendra, parce que vous le connaissez bien, je crois quand même.
Mais... Oui, moi, puisque ce petit livre parle de ça finalement, il parle de ce moment où qu'on a pu tous connaître à un moment donné dans la vie, où on a le sentiment que l'on ne peut plus avancer, voilà, et que, comme je le dis, la chute même est derrière nous, c'est-à-dire on est tombé et on ne peut plus se relever, on ne peut plus avancer. Donc oui, c'est ce qu'on peut appeler le désespoir. Moi, j'ai pas de solution justement. Au contraire, ce que j'ai essayé d'explorer, c'est quelque chose de très étrange qui apparaît, disons, enfin, en tout cas pour moi, effectivement, dans la littérature hébraïque, dans la Bible, c'est que c'est à ce moment-là où, effectivement, tout est sombre et plus rien ne semble possible, c'est à ce moment-là même qu'il faut affirmer ce qu'on va appeler l'espérance. Voilà. Donc, c'est ce que disent très bien certains textes bibliques, notamment dans les psaumes ou certains textes prophétiques de la Bible. C'est-à-dire que l'espoir des pauvres, l'espoir de ceux qui sont abaissés, n'est pas mort. Voilà. Mais donc, c'est une énigme, puisque où se situe l'espoir dans la détresse. Voilà. C'était un peu ça la question du livre au départ, en tout cas.
Et vous avez prononcé le terme d'espérance, c'est vraiment le fil conducteur de votre livre. Bien sûr qu'il n'y a pas de solution, et pourtant, énigme, avez-vous dit, miracle peut-être, vous dépassez ce moment, vous allez dans une autre direction, alors qu'au début du livre, vous décrivez cette absence totale d'issue possible. Le terme d'espérance est intéressant parce que il ne se pose pas vraiment à désespoir. L'espérance, c'est pas l'espoir. Qu'est-ce qui distingue les deux?
Alors c'est assez compliqué. D'abord, c'est propre à la langue française, puisqu'on a ces deux substantifs qui ont été créés à partir d'une même racine. Et la priorité reviendrait sans doute à l'espérance, qui est le mot qui apparaît peut-être antérieurement dans les textes en ancien français. Mais l'espoir, d'une certaine façon, le mot espoir va supplanter le mot espérance. Le mot espérance va être réservé, va se développer, va être réservé, va même acquérir même une substance propre à travers le discours religieux, à travers la théologie chrétienne. Le mot espérance va être réservé en quelque sorte à la culture chrétienne. À tel point d'ailleurs que quand on avait fait cette traduction de la Bible, il y a déjà 17 ans à peu près, avec des écrivains contemporains.
Vous avez dirigé le chantier de la nouvelle traduction de la Bible, avec Olivier Cadiot, Jean Echenoz, voilà. Florence Delay, Jacques Roubaud, Valère Novarina, qui était paru en 2001 aux éditions Bayard.
Tout à fait, bien, on réalisait des sortes de petits séminaires de traduction, c'était assez amusant. Et il y a eu une question, effectivement, c'est faut-il traduire Elpis en grec par espoir ou par espérance? Faut-il garder le mot espérance, qui était le mot chrétien, on va dire, de la traduction? Et voilà, on a préféré à l'époque, assez majoritairement, le choix du mot espoir, puisqu'il nous paraissait plus moderne, plus direct, plus... voilà. Donc, voilà, moi, par contre, dans ce livre, j'interroge ce mot espérance, le devenir de ce mot espérance dans la pensée, à la fois théologique, mais aussi politique, voilà, puisque moi, je tiens à dire que ce livre est d'abord un livre politique.
En quel sens est-il un livre politique? Parce que vous le dites dans le livre, ce que vous racontez est pourtant très personnel, très intime, c'est-à-dire aussi universel. Hein. C'est souvent quand on plonge au plus profond de nous qu'en fait on s'adresse à tout le monde. Où situez-vous la dimension politique de cet ouvrage?
D'abord, finalement, la naissance de ce livre, ça a été la question de l'espérance aujourd'hui. C'est-à-dire, où se situe l'espérance aujourd'hui? Où on peut l'entendre? Quels sont les discours collectifs, politiques qui nous parlerait encore d'espérance? Et finalement, voilà, je considère que il y a une certaine absence de l'espérance dans les discours du monde actuel, et qu'effectivement l'espérance apparaît peut-être comme quelque chose qu'on aurait sinon perdu, en tout cas peut-être renié, hein, c'est-à-dire cette espérance finalement dont se sont réclamés nombre de pensées dès le XVIIIe, XIXe siècle, jusqu'au XXe siècle, que ce soit même dans la pensée communiste, ou que ce soit dans des pensées de libération, des pensées révolutionnaires, ou des pensées utopistes aussi, le mot espérance avait non seulement une importance capitale, mais était une énergie. Voilà. Et je considère qu'on l'a évacué. Et on l'a évacué peut-être parce qu'il est très très difficile aujourd'hui de considérer que l'espérance finalement est un droit pour chacun. Voilà. C'est que peut-être on ne construit plus de politique en pensant d'abord à l'espérance de chacun. L'espérance de chacun qui construit un monde dans lequel on pourrait vivre les uns avec les autres.
Et pensez-vous que ça puisse être une affaire politique? Ce que le combat que vous décrivez est tellement singulier et personnel, il est difficile d'imaginer comment il pourrait être mené à l'échelle collective.
Oui, ben alors je vous renverrai la question, c'est-à-dire qu'est-ce que serait la dimension collective d'une communauté, quelle qu'elle soit, nationale, politique ou même religieuse, qui ne reconnaîtrait pas la dimension collective de l'espérance, justement, pour la construction d'une communauté les uns avec les autres. C'est-à-dire que l'articulation, c'est peut-être l'espérance, c'est peut-être le lieu où l'articulation de l'intime et du collectif est la plus vive, est la plus nécessaire, et peut-être la plus difficile, effectivement.
L'articulation de l'intime et du collectif, on la retrouve sous différentes formes dans votre livre, où vous citez plusieurs auteurs. Dans tout début, dans l'extrait que vous avez lu qui a ouvert l'émission, on entendait... Il fallait vraiment bien connaître le texte. Quelques citations de Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathoustra. Hein. Chantez maintenant vous-même le chant dont le nom est encore une fois, dont le sens est dans toute éternité. Alors selon les traductions, vous disiez à tout jamais, chantez au homme supérieur, chantez à la ronde le chant de Zarathoustra. On trouve Nietzsche, Victor Hugo, qui parle d'espérance directement, Shakespeare. Et tout votre travail depuis ces dernières années est de finalement tenir ensemble des lectures plus classiques, une relecture personnelle et un travail de traduction. Et j'y viens parce que très vite dans votre livre, alors que vous décrivez une catastrophe imminente, on trouve de très belles pages sur la traduction, non pas simplement comme activité, comme métier, comme travail, mais comme question de survie. Vivre, c'est traduire, dites-vous.
Oui, j'ai découvert ça en travaillant ce livre, effectivement. Ouais. D'abord parce qu'effectivement, pour moi, la traduction, c'est pas un métier, c'est même pas une, je me considère pas comme traducteur comme d'autres grands traducteurs qui ont fait leur occupation principale, mais pour moi, la traduction, effectivement, a été une dimension de l'existence. Ouais, effectivement. Et effectivement, vivre, c'est se traduire pour les autres et traduire les autres pour soi. Et je trouve que c'est la plus belle définition peut-être d'une vraie traduction. C'est-à-dire, on se traduit à travers les autres que l'on traduit aussi. Traduire, c'est pas seulement traduire l'autre, c'est se traduire à travers l'autre que l'on choisit de traduire. Et il y a dans l'existence, effectivement, probablement une nécessité de parvenir à se traduire pour soi. Donc, il est arrivé à chacun d'entre nous de ne pas pouvoir se traduire. Mmh. De ne pas pouvoir, c'est au-delà même de la compréhension, mais de ne pas pouvoir lire ce qu'on est en train de vivre. Et de ne pas pouvoir interpréter, entre traduire et interpréter, en une grande proximité, hein, en tout cas, notamment dans l'exégèse des textes, à la fois le mot midrash en juif ou le mot exégésis en grec sont des mots qui à la fois signifient traduire et interpréter, et aussi signifient à la fois chercher, quêter, enquêter. Midrash, à l'origine, en hébreu, c'est une racine qui signifie effectivement enquêter, chercher. Ouais.
Un autre écrivain comme vous et traducteur comme vous, qui ne se présente pas comme traducteur comme vous, c'est Herri de Luca. Écoutez-le parler de son métier de traducteur.
Je ne suis pas un traducteur, parce que traducteur, c'est quelqu'un qui vit de ça. Et quand je traduis une page, je traduis un livre de l'Ancien Testament, je traduis une ligne par jour. C'est un vers par jour. Donc, on ne peut pas vivre, on peut mourir de ça très, très vitement. Mais la question pour moi de la traduction, c'est un exercice d'admiration. J'admire la chose que je vais traduire, les mots que je vais traduire. Et l'admiration, pour moi, c'est un sentiment intransitif. Donc, je n'arrive pas à m'identifier avec l'écrivain. Je reste de mon côté. Et je ne fais même pas un centimètre pour m'approcher à lui. Parce que si je vais dans cette direction, je commence à avoir un sentiment d'envie et de me mettre à la place d'eux. Non ? D'être l'usurpateur dans ma langue de l'écrivain. Et de ce côté de l'admiration, quand je traduis, je fais l'effort de trouver la meilleure solution en italien. Et donc, je plonge dans ma langue. Je deviens plus capable d'extraire le mot juste. Au fur et à mesure, je deviens plus patron de ma langue à travers les exercices de traduction. Donc, si quelqu'un veut devenir écrivain, je lui dis d'abord, apprends une autre langue.
Je l'avoue ici, cette entreprise de retour à la vie, à la fois sentimentale, physique, intellectuelle, fut un travail de traduction. Au fond, traduire l'autre, c'est toujours se traduire avec et à travers l'autre. Étonnamment, je crois pouvoir affirmer aujourd'hui que figure en bonne place dans l'existence de chacun d'entre nous le problème de la traduction, la question de traduire les autres, la question politique de ce que vivent ou ne vivent pas les autres, et celle de se traduire comme vivant. C'est-à-dire de s'éprouver comme vivant à travers l'énonciation du monde. Précisément, dans notre mission de vivre et d'exister parmi les autres, il peut arriver alors que nous pensions qu'il n'y a pas de possibilité de se traduire d'aucune sorte. Le temps de la traduction dans nos existences est toujours, à un moment donné, celui d'une confrontation avec l'inexprimable. Nous devons en quelque sorte trouver un passage possible, un apaisement compréhensible entre deux ordres, dont chaque cohérence inquiète l'autre, et une fois cet équilibre trouvé, nous devons accepter, pour que l'équilibre tienne, que l'inexprimable pacifiant en nous, tel un dragon, ne cesse toutefois jamais d'être ce dragon, cette inquiétude. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. C'est Frédéric Boyer qui est à mon micro aujourd'hui, auteur de Là où le cœur attend, un ouvrage publié chez POL ce mois-ci. Le témoignage d'Éric Deluca est assez proche du vôtre, Frédéric Boyer, des phrases que j'ai lues.
Alors, il est proche et il est différent, voilà. Ouais. J'ai de temps en temps débattu avec lui. J'aime beaucoup et j'ai beaucoup. Son attachement à cet acte de traduction quotidienne est un acte d'existence, c'est ce qu'il explique bien. Donc, je me sens très proche de tout ce qu'il dit. Mais par contre, je m'oppose à sa conception finalement du travail de traduction. Bon, c'est un peu. Je crois qu'au contraire, traduire, c'est s'immiscer. Voilà, traduire, c'est se confronter et bien sûr que même lui d'ailleurs, contrairement à ce qu'il dit, il ne reste pas dans une admiration éloignée.
Oui, il dit la traduction est un exercice d'admiration, dit-il.
Ça, je veux bien l'entendre, mais lui, son admiration, c'est effectivement, il dit, moi, je m'efforce de ne pas intervenir et de traduire en italien le mieux possible l'hébreu. Et bien, en faisant cela, il transforme l'hébreu et il transforme ce qu'il traduit. Et c'est même absolument nécessaire, c'est ça la force de la traduction. Nier ça, comme il n'est pas là, je vais pas trouver. Nier ça, c'est ne pas comprendre ce que c'est que traduire. Et ce n'est pas comprendre, et ni même faire hommage à ce qu'a été, à ce qu'est encore la traduction dans l'histoire des civilisations humaines. La traduction, ça a toujours été un moment de réinvention de soi à travers une captation de l'autre, quand même. Hein. Lorsque, par exemple, on se met à retraduire à la Renaissance tout le patrimoine de l'Antiquité, c'est un moment de fondation de notre monde. Alors évidemment, on redécouvre quelque chose, on le retransmet, mais on est en train d'inventer la plasticité de notre langue moderne. Quand on fait ça, à la Renaissance, on traduisait pour prouver que cette langue vernaculaire, dite populaire, était en fait une langue capable, comme ça, elle aussi, de prendre à bras le corps les auteurs du patrimoine antique. Lorsque Jérôme traduit la Bible en latin, il fait passer la Bible, il fait passer ses écritures dans non seulement une langue, mais toute une civilisation nouvelle, qui est la civilisation latine, qui deviendra la civilisation chrétienne. C'est très important, et on produit des changements de sens, on produit des changements de forme, de mots. C'est la traduction, ça n'est pas simplement une transposition, même admirable et admirative, de la langue de l'autre.
C'est un travail de création également.
C'est un travail de création. Et d'opposition et de reformulation.
D'opposition à quoi?
Ça peut être un travail d'opposition.
Au texte original?
Oui, bien sûr. On peut ne pas, même involontairement, mais forcément, lorsque on traduit en grec par nomos le mot hébreu Torah, on oppose quelque chose finalement, parce que voilà, et on crée quelque chose. On fait passer toute cette littérature hébraïque sur la question effectivement de l'enseignement, de la direction, ce que signifie en hébreu le mot Torah. On le fait passer dans l'interprétation hellénistique de la loi, du nomos et du droit et presque de la juridiction, ce qui ne s'oppose pas stricto sensu avec la loi hébraïque, mais qui va amplifier, déplacer la conception traditionnelle de la Torah hébraïque, voilà, et qui crée, et c'est ce qui crée de la civilisation, c'est ce qui crée de la culture. Donc même personnellement, intimement, quand on traduit, effectivement, d'une certaine façon, on est amené à provoquer comme ça des petits changements culturels, des petites inventions culturelles propres à soi. Voilà.
Et que fait-on de ce reste, de cet inexprimable qui est donc par définition intraduisible?
C'est la deuxième question, c'est-à-dire qu'effectivement, toute traduction est habitée par ce qu'elle manque finalement, voilà, parce qu'elle crée quelque chose, donc elle crée du neuf, elle crée du nouveau, mais elle manque aussi quelque chose, voilà, et c'est ce qui fait qu'il faut toujours retraduire, et c'est comme métaphore de l'existence, effectivement. Bon, je trouve ça intéressant, c'est qu'effectivement, si vivre, c'est traduire, c'est aussi accepter voilà, en vivant, en interprétant la vie, qui est quelque chose, un acte majeur pour vivre. Voilà, c'est aussi le sens de ce petit livre. C'est pas une solution, mais on sort du désespoir en retrouvant le courage d'interpréter la vie. Voilà. Si on perd ce courage-là d'interpréter la vie, évidemment, on ne crée plus rien, ni de nouveau. Et surtout, interpréter la vie, c'est-à-dire qu'on accepte de laisser les dragons comme ça quelque part et de les retrouver un jour ou l'autre.
Vous appelez ça les dragons?
Oh, c'est comme ça. C'est comme dans les contes de fées. C'est ce qu'il représente. C'est-à-dire, c'est le dragon. C'est moins. D'ailleurs, je dis inexprimable. Peut-être si je le reprenais aujourd'hui, c'est l'inexprimable. Mais c'est même encore plus intéressant que ça, parce que même dans le travail de traduction, ce n'est pas tellement qu'on laisse de côté l'inexprimable, c'est qu'on laisse de côté une question. On laisse de côté quelque chose qui nous interroge. Voilà, un dragon, c'est ça aussi. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qui peut faire peur, qui est terrifiant, c'est ce que dit. Mais je l'ai plus en tête dans les lettres un jeune poète, hein, Rilke, qui enseigne à son interlocuteur effectivement de ne pas avoir peur de parler à ses dragons et de les tenir avec lui, voire de les aimer. Voilà.
Mais ce qui est intéressant avec le dragon, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il existe.
Non, on n'est pas sûr qu'ils existent effectivement. Non, mais effectivement, vous avez raison. Même on peut se poser, même en traduction, on peut se poser une question qui va nous terrifier, qui va parfois nous empêcher de traduire. Mais finalement, peut-être que c'est nous-mêmes qui créons, et même peut-être dans la traduction, c'est nous-mêmes qui créons ce que nous croyons être inexprimable. Voilà. Je serais assez d'accord avec ça.
Vous écrivez, je tiens à préciser que l'effort de ce petit livre... Alors, je tiens moi-même ici à préciser que c'est pas du tout un petit livre. Vous n'arrêtez pas de dire un petit livre. C'est un livre qui est extraordinaire de précision, de justesse, surtout dans justement votre travail d'écriture en parlant de la traduction, et qui propose une expérience de lecture assez inédite. Donc, je reprends votre formulation, je suis quand même fidèle à ce que vous avez écrit. Je tiens donc à préciser que l'effort de ce petit livre fut de retracer le plus honnêtement par quelle traduction de texte et d'expression de la vie j'ai dû passer pour traduire mon chagrin en espérance. Ici, on est même au-delà de la traduction, c'est quasiment de la conversion, passer du chagrin à l'espérance.
Oui, c'est un mot.
Il y a un saut pour reprendre une expression kierkegaardienne.
Oui, mais puis j'aime bien ce mot de conversion, non pas pour, mais parce qu'effectivement on tourne quelque chose, voilà, on retourne. C'est là, cette conversion, il y a, on le retrouve dans le livre de Job et tout ça, ou dans les grands textes prophétiques. C'est-à-dire la question centrale, voilà, du désespoir, c'est de se retourner, voilà, de retourner en hébreu shuv, mais c'est le sens étymologique du mot conversion, voilà, on se retourne, voilà, c'est d'où le titre de ce livre là où le cœur attend,
qui vient des Lamentations,
qui vient effectivement du petit texte des Lamentations dans la Bible, où il s'agit de retourner là où le cœur attend, c'est-à-dire retourner retourner au lieu des désirs et des espoirs. Voilà.
Vous parlez du livre de Job, on va en entendre un extrait, puisque ce livre est très important dans votre livre, Frédéric Boyer. Peut-être un mot avant qu'on entende l'extrait, pourquoi c'est ce livre en particulier de Job qui vous a tant parlé et tant aidé à ce moment-là?
Parce que ça fait partie de ces livres de la Bible très connus, mais que finalement on ne lit pas vraiment. Ça fait partie de ces livres aussi de la Bible où on croit savoir ce dont il parle. Et c'est un livre très étrange. D'abord, c'est un livre qui parle d'un c'est un conte oriental, hein, qui est inspiré sûrement de traditions autres que de traditions hébraïques. D'abord, Job n'est pas... C'est un édomite, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui un arabe, c'est pas du tout un juif. Et pourtant, il est considéré comme un sage d'Israël et même voire comme un prophète. Il est cité parmi les prophètes d'Israël. Et ce qui lui arrive est tout à fait étonnant, même si c'est une histoire qui a beaucoup d'écho et dans l'Orient ancien et puis plus tard dans toute la littérature, serait-ce qu'avec Faust, etc. D'ailleurs, c'est l'histoire de quelqu'un qui est respectueux. Peut-être d'ailleurs son problème, c'est ce scrupule au respect et au bien, puisqu'il est tellement, il veut tellement être juste qu'il en devient scrupuleux et peut-être trop scrupuleux, et il perd tout sous la forme d'un pari entre la divinité et le négateur ou l'adversaire, hein, qui est comme dans une cour de justice, hein, où on met en cause quelqu'un pour voir si ça tient. Il perd tout et à partir de là, il va devoir s'expliquer avec ses amis. Et puis surtout avec celui qui est son créateur.
Ah, combien je voudrais que Dieu ait supprimé le jour de ma naissance. et la nuit qui a dit « un garçon est conçu ». Qu'on regarde ce jour comme l'un des plus sombres, que Dieu, là-haut, ne s'intéresse plus à lui, qu'aucune lumière ne vienne l'éclairer, que l'ombre la plus noire s'empare de lui et qu'un nuage obscur s'abatte sur ce jour ou une terrifiante éclipse de soleil. Quant à cette nuit-là, qu'elle soit la plus noire, qu'on ne la compte plus dans le calendrier et qu'elle n'entre plus dans le calcul des mois, oui, que cette nuit-là reste toujours stérile et qu'aucun cri de joie n'y pénètre jamais. Qu'elle soit signalée comme portant malheur par tous les magiciens qui maudissent les jours et sont habiles à provoquer le grand dragon. Qu'elle ne puisse voir l'étoile du matin. Qu'elle espère le jour, mais qu'elle attende en vain et n'aperçoive pas l'aurore qui s'éveille. Car elle n'a rien fait pour m'empêcher de naître et de voir aujourd'hui cette dure misère.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Frédéric Boyer nous parle aujourd'hui de son ouvrage « Là où le cœur attend ». Et nous venons d'entendre un extrait du livre de Job de la Bible, interprété par le comédien Yvan Morad. Vous dites, le livre de Job est central pour vous, et vous dites, il commence ainsi « L'espérance appartient aux faibles ». On trouve ici le terme d'espérance. Il est du côté des faibles.
Tout à fait, on trouve le mot dans le livre de Job. C'est pas le livre de la Bible où on le trouve le plus, mais en tout cas on le trouve. Mais alors, voilà, il faut aussi comprendre que ce livre est un livre profondément ironique. En tout cas, moi je défends cette lecture. C'est-à-dire que si on lit trop littéralement ce livre, si on tombe trop littéralement dans l'histoire de ce petit personnage, je le répète, c'est un conte. Mmh. Si on comprend pas que c'est un conte, on passe à côté de la profonde dimension ironique.
Où est l'ironie pour vous dans ce livre ?
Alors, d'abord, l'ironie, effectivement, l'espérance appartient aux faibles. C'est un des amis de Job qui lui dit ça et qui lui retourne ça. C'est-à-dire, finalement, c'est presque une critique. C'est-à-dire que, voilà, c'est les faibles qui espèrent. Les forts n'ont pas besoin d'espérer d'une certaine façon. Or, il se trouve que cette phrase, en tout cas cette assertion, elle est très importante, par exemple, dans les psaumes ou dans toute la littérature prophétique. C'est-à-dire, effectivement, l'espérance appartient aux pauvres. L'espérance appartient à ceux qui faiblissent, qui sont courbés, qui sont opprimés, qui sont désespérés. Et ce petit livre met en scène l'excès, met en scène le pire, là, on l'a bien entendu. Et c'est comme ça sur des pages et des pages. Hein. Et alors, c'est comme s'il s'agissait d'interroger à l'extrême la question de l'espérance. Voilà. Quand est-ce que l'espérance est encore possible ? Jusqu'où l'espérance est encore possible ? Voilà. Et alors Job ne répond jamais à cette question. Voilà. Job ne répond jamais à cette question, mais il va habiter le lieu du pire comme lieu où poser la question de son existence.
Mais pour être très concret, Job lui pense que Dieu l'a abandonné. C'est-à-dire qu'il est face à un scandale qui est pour lui assez objectif. Est-ce qu'il faut le lire au sens métaphorique de toute confrontation que nous pouvons faire avec l'absurde en général?
On peut lire comme ça, mais effectivement, enfin, Job ne pense pas que Dieu l'a abandonné parce qu'il lui parle, il l'appelle. Dieu ne répond pas, mais ça, ils ont l'habitude. Dans la Bible, c'est la situation du suppliant. Il commence par appeler et il ne lui répond pas. Mais ce n'est pas tellement que Job pense que Dieu l'a abandonné, c'est qu'il veut comprendre ce qui se passe. Voilà. C'est pour ça que c'est quelque chose de... C'est pour ça que je dis, c'est un conte quand on est dans un malheur, quand on a tout perdu comme ça. La première réaction n'est peut-être pas de... Il demande des comptes, en fait. Il ne pense pas que Dieu l'a abandonné. Il demande des comptes et il veut comprendre pourquoi. Voilà. Alors, c'est pour cela que l'enjeu de ce livre, c'est ce qu'on fait de la parole à un moment donné où, effectivement... tout va mal et où on ne comprend plus rien.
Job d'un côté, mais aussi de l'autre, Shakespeare et le Roi Lear que vous citez, une autre forme d'abandon, de désespoir et une autre référence à l'espérance, écoutez.
Entre Edgar, déguisé en mendiant fou.
Pourtant, c'est mieux de savoir qu'on est méprisé plutôt qu'être flatté par qui vous méprise. Quand on est au plus bas, qu'on est rejeté de tous, on garde l'espoir, puisqu'on n'a plus rien à perdre. Les pleurs sont forcément suivis d'un rire. Alors bienvenue à toi, air impalpable que j'emprunte. Pauvre type que tu as jeté par terre, il ne te doit plus rien.
Mais qui vient là?
Entre Gloucester, conduit par un vieillard.
Mon père, ses yeux, ce sang. Quel monde, mais quel monde! Si l'on admet la vieillesse, c'est que tous ces changements ont rendu le monde détestable.
Je suis votre fermier, seigneur Gloucester. J'étais celui de votre père depuis 80 ans.
Va-t'en, va-t'en. Je t'en prie, va-t'en. Tu ne m'aides aucun secours et en m'aidant, tu prends des risques.
Mais vous ne voyez pas votre chemin.
Je n'ai pas de chemin. Je n'ai pas besoin de Dieu. Quand j'en avais, je trébuchais. Cela arrive souvent. Nos ressources nous rendent trop sûrs de nous, alors que ce qui nous manque nous profite. Mon fils, mon Edgar, j'ai nourri contre toi une colère de père trompé. Je veux vivre pour te serrer contre moi. Je dirai alors, j'ai retrouvé mes yeux.
Qui est là, Dieu?
Qui peut assurer qu'il a touché le fond? Je descends encore.
Cet homme, le pauvre fou.
Je peux encore descendre plus bas. On n'est pas encore au fond, tant qu'on peut encore dire qu'on y est.
Frédéric Boyer, vous écrivez « Job va assumer sa détresse jusqu'à assumer l'ironie de ce paradoxe. Le pire fait tenir en espérance. » Tel que l'exprime également Edgar dans La Lande, déguisé en pauvre Tom. Dans La tragédie du roi Lear, on vient de l'entendre et vous citez ces vers dans votre traduction. « D'être au pire, chose la plus basse et pire rebut du sort, faire tenir en espérance, vivre sans peur. » Et le terme d'espérance figure dans la langue anglaise, je tiens
à
signaler.
Oui,
Esperance.
Un emprunt du français, comme ça arrive en anglais.
Alors aidez-nous à comprendre qui est Edgar ici dans cette pièce.
Edgar est un fils rejeté, pour aller vite, exclu, en tout cas non reconnu, un bâtard qui est exclu de la filiation, et il va se déguiser effectivement en pauvre Tom, donc en fou, mais c'est un acte de travestissement. Et il va errer sur la lande et il va rencontrer effectivement le roi Lear et il va devenir comme ça l'image effectivement de la dérédiction humaine. L'image du pire. Mais alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est ce qu'on vient d'entendre là. C'est Job aurait pu le dire, effectivement. Voilà. Et mais par contre, comme c'est Shakespeare, il y a cette grande force de mettre dans la dérédiction, dans le tragique. Il le dit à un moment donné. Il dit le pire se retourne en rire. Enfin voilà.
C'est ça.
Et donc on a ça chez Shakespeare. Et effectivement, c'est comme si l'espérance était aussi pouvait naître de cette force qui va rire du pire. C'est quelque chose d'important parce qu'effectivement quand on commence à pouvoir rire du pire, on déplace quelque chose. Et bon, enfin, ça serait un peu trop long, mais moi, je pense qu'il y a ça dans le livre de Job, en tout cas dans la.
Non, mais dites-nous.
Non, mais c'est-à-dire que si c'est un acte de lecture, enfin, c'est un acte d'interprétation. Si on interprète le livre de Job comme, je veux dire, un scénario extrêmement vraisemblable dans lequel un pauvre homme. Mais en fait, moi, je ne lis pas le livre de Job comme ça. Je lis pourquoi on a écrit ce livre comme ça. On a écrit pour faire entendre l'excès du pire et d'une certaine façon, ce pire se retourne en dérision, ce pire se retourne en rire d'une certaine façon, même dans le livre de Job, tellement il va loin et tellement finalement il arrive à parler d'égal à égal avec son créateur quand même. Mm-hmm. À la fin, le créateur qui n'en peut plus d'entendre peut-être cette espèce d'énorme plainte presque grotesque par moment, le créateur répond à Job. Et sa réponse aussi est une réponse complexe, puisqu'il lui demande tout simplement où il était pendant que lui créait le monde.
Et finalement, c'est comme souvent le rire surgit, ou même l'humour advient quand il y a la rencontre entre l'infiniment petit,
voilà,
l'infiniment grand.
Qui lui présente en plus, alors Behemoth, Léviathan, c'est-à-dire tous les... toutes les créatures extraordinaires de cette création, au passage, des créatures que l'on ne retrouve pas dans les textes de la Genèse qui racontent la création du monde, où l'homme, au contraire, a une maîtrise douce, mais totale, de toute la création et de toutes les créatures. Bémoth et Léviathan n'apparaissent pas dans les textes de la Genèse. Je dis ça parce que c'est important, parce que c'est un élément où on voit qu'il y a un travail sur l'excès, et tout ce livre parle de l'excès, puisqu'à la fin, sincèrement, il est quand même assez difficile de comprendre pourquoi, mais Job on lui restitue tout ce qu'il a perdu, mais dans des proportions excessives, au triple, au double. Alors, beaucoup d'exégètes peuvent penser que cet épilogue est un épilogue rajouté. Moi, je pense pas. Il fait partie intégrante de ce livre, et justement de cette stratégie ironique du livre, où finalement, celui qui a tout perdu retrouve tout au centuple, avec cette mélancolie qui fait que ce qu'il retrouve, ce n'est pas ce qu'il a perdu.
Et comment passe-t-on du pire au rire ? Vous dites là, c'était un geste de lecture. Le texte vous aide à le faire ?
Oui, le texte m'aide à le faire.
Et c'est le texte qui aide à rire ?
C'est le texte qui aide à rire, oui, effectivement. Oui.
Et peut-on avoir la même attitude à l'égard de sa propre expérience ? Ou est-ce que c'est là où le texte est une espèce de viatique ?
D'une certaine façon, il est souhaitable que de temps en temps, on ait cette attitude par rapport à sa propre existence, oui.
Vous décrivez également dans ces pages...
En tout cas, par rapport à son propre malheur, pardon, effectivement, oui. Quelque chose de... Enfin, moi, je suis un amoureux inconditionnel de Chaplin, et je pense que les films de Charlie Chaplin fonctionnent sur cette idée-là, voilà.
L'idée d'arriver à faire rire de ce qui ne fait pas rire habituellement.
Voilà. L'image d'un pauvre vagabond ridicule, qui tout d'un coup, à travers le rire, devient l'image même de la condition de chacun d'entre nous. Enfin, c'est une belle...
Il est toujours plus facile de rire d'autrui ou de ce qu'un autre met en scène que de soi. Il faut avoir une certaine distance à l'égard de soi. Mais on en revient à ce que vous disiez. Écrire, c'est traduire. Si écrire sur soi, écrire à la première personne, est se traduire, on a alors cette distance pour pouvoir en rire.
Je crois, oui, tout à fait.
Dans cet ouvrage, vous trouvez aussi des passages sur un travail que vous aviez fait avant. Vous aviez écrit un livre qui s'appelle Comprendre et compatir, lecture de Dostoïevski. Et vous citez les démons de Dostoïevski pour montrer que finalement, une des choses les plus redoutables à laquelle on peut s'attendre lorsqu'on est vraiment dans le pire ou dans un désespoir total, c'est l'absence de désir. Parce que l'absence totale de désir, et cette fois-ci même à l'échelle collective, c'est le nihilisme. Et de cela, il est très difficile de se relever. Écoutez un extrait des démons de Dostoïevski.
Écoutez, Stavrogin, il y a une chose qui manque dans le monde, l'obéissance. La soif de l'instruction est déjà une soif aristocratique. Un peu de famille, un peu d'amour, et voilà déjà le désir de propriété. Le désir, nous le tuerons. On inventera l'alcoolisme, les ragots, les mouchards. Tous les génies, nous les étoufferons dans l'œuf. Tout ça au nom d'un dénominateur commun, l'égalité totale. Dans le chigaliovisme, il n'y aura pas de désir. Le désir et la souffrance, c'est pour nous. Pour les esclaves, le chigaliovisme.
Vous vous excluez.
Et vous aussi ? Stavrogin, vous êtes beau. Vous le savez que vous êtes beau. Vous avez même de la simplicité, de la naïveté. Vous le saviez, ça ? Cette simplicité, elle vous fait souffrir, sans doute, et souffrir sincèrement. J'aime la beauté. Je suis nihiliste, mais j'aime la beauté. Ils n'aiment non pas la beauté, les nihilistes. Ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les idoles. Bon, eh bien, moi, j'aime une idole. Mon idole, c'est vous. Vous n'offensez personne et tout le monde vous déteste. Vous avez l'air d'être l'égal de tous, et tout le monde a peur de vous, c'est bien. Un aristocrate, quand il entre en démocratie, il vous envoûte. Écoutez, je les ai comptés. Le professeur qui se moque de Dieu, il est déjà à nous. L'avocat qui défend l'assassin instruit en disant qu'il est plus cultivé que ses victimes, il est à nous. Le procureur qui tremble au tribunal de ne pas être assez libéral, il est à nous. Le peuple est saoul. Les mères sont saoules. Les enfants sont sous, les églises sont vides. Oh, laissez-la grandir, cette génération. S'ils pouvaient être tous seulement un petit peu plus sous.
Nous tuerons le désir et le mot d'ordre de la société secrète terroriste des démons. Le roman de Dostoïevski, dont on vient d'entendre une interprétation dans les fictions de France Culture, diffusée le 13 mai 2016. Dites-nous, Frédéric Boyer, qui sont Verkhovski et Stavrogin ? Dans ce dialogue génial, là, pour le coup, qui fait rire.
Oui, tout à fait. Mais ce sont des personnages qui ont monté une société secrète, effectivement. Ils incarnent, en tout cas, là, effectivement, ce que Dostoïevski va, va décrire, c'est peut-être la plus, des plus belles descriptions de ce qu'on appelle le nihilisme. C'est un mot qu'on entend beaucoup, employé à tort et à travers, voilà, et qu'on définit peu. Et lui, dans ce roman, effectivement, il en fait une définition pratique, enfin presque romanesque en tout cas, qui est exceptionnelle. Et dire effectivement que le mot d'ordre de ces nihilistes, c'est « nous tuerons le désir », hein, et ça voilà, je ne veux pas citer à l'antenne de trop, mais dans les carnets des démons, dans les carnets d'écriture, il y a effectivement un texte très beau où Dostoïevski développe ce « nous tuerons le désir ». Il n'a pas repris ça dans son roman, mais c'est toute une litanie des sévices les plus abominables qu'on peut imaginer. Voilà. Et définir le nihilisme comme cette mise à mort du désir, effectivement, bon, si on le met en écho de la place que peut et doit prendre l'espérance dans une existence individuelle ou collective, c'est important, parce qu'effectivement, l'être même de l'espérance, c'est de tenter d'inventer du désir là où on pense qu'il n'y en a pas, où effectivement, ce que dit très bien saint Paul, c'est-à-dire d'agripper, il dit « j'agrippe l'espérance », qui est un mot très fort, hein. Alors que, comment agripper l'espérance ? J'agrippe l'espérance, et agrippant l'espérance, je possède un objet sans le posséder. Voilà, je désire quelque chose sans l'avoir. Voilà, et c'est le début de quelque chose de très fort, enfin, qui fait bouger non seulement les vies, mais les collectivités, les communautés, et en tout cas en théologie, ça fait bouger le temps lui-même.
L'espérance peut faire renaître le désir.
Le propre de l'espérance, c'est effectivement d'amener du désir là où on n'en a pas, ou d'amener un objet de désir là où on n'en a pas. On ne possède pas l'objet du désir de l'espérance. C'est ce que dit Paul.
Mais par définition.
Si on voit l'espérance, ce n'est plus l'espérance. Lui aussi était assez ironique, d'ailleurs. Mais effectivement, le propre de l'espérance, c'est de créer du désir pour ouvrir... Pour ouvrir devant soi la temporalité, pour habiter par le désir la temporalité. Et ça nous mène un peu plus loin, mais c'est-à-dire qu'effectivement, l'espérance est tout entière tendue à la création d'un temps pour en finir avec ce que nous n'avons pas. Voilà. On appellera ça le messianisme.
C'est ça, oui.
Et c'est un temps qui est défini notamment dans le livre de Daniel, dans la Bible, par une définition magnifique, bouleversante. Hein. Effectivement, on dit c'est un temps pour le pardon. Hein. Donc le temps pour finir, c'est le temps du pardon. C'est justement pas le temps nihiliste pour en finir. Voilà. Voilà. Le temps de la fin, c'est le temps qui nous est accordé pour pardonner. Et pour pardonner le temps lui-même et pour pardonner peut-être notre manque de désir, justement.
Vos mots, Frédéric Boyer, ressemblent étrangement à ceux d'un autre. Écoutez.
Le fait que la rédemption soit l'enjeu du messianique veut dire avant tout une chose importante, c'est que l'état messianique est pour ainsi dire tourné non pas vers les futurs, mais vers les passés. Ce qu'il s'agit de racheter, c'est les passés, ce qui est déjà advenu. Là, c'est une chose importante. On nous a au fond toujours appris que dans les instances décisives, c'est vers le futur, vers l'éternel, au-delà du temps qu'il faut se tourner. Ce que Paul nous dit, c'est au contraire que dans la rédemption, dans l'état messianique, c'est notre passé. C'est le passé qui est en question. Et c'est là que peut-être le passé est racheté, c'est-à-dire devient pour la première fois notre passé. Mais de toute façon, c'est bien vers les passés qu'il faut se tourner dans l'instance décisive. C'est avec les passés qu'on doit régler nos comptes, et non pas en espérant vers un vague futur.
Alors là, c'est difficile à comprendre. C'était Giorgio Agamben que nous venons d'écouter, hein, Frédéric Boyer. Vous l'aurez reconnu, tout le monde pas forcément. Donc voilà, c'était au micro des Chemins de la Connaissance en 2000. Il est difficile de comprendre comment l'espérance peut avoir pour objet non pas l'avenir, mais le passé. Comment espérer à propos de quelque chose qui a déjà eu lieu ?
Voilà, alors, bon, lui, il parle du messianisme, qui parle tout à fait confondre avec l'espérance, mais c'est justement, on peut le dire presque plus simplement, il le dit très bien, mais moi, on peut essayer de le dire plus simplement, c'est justement en repartant, enfin, j'invite ceux que ça intéresse à lire le chapitre 9 du livre de Daniel, où effectivement, il est question de ce temps messianique, voilà, et de cette promesse messianique, et donc, de l'espérance qu'on qu'on peut avoir d'un temps meilleur, pour dire les choses très vite. Et ce que répond l'ange à Daniel, c'est de lui dire « un temps va vous être accordé pour en finir avec le mal ». Voilà. Et alors, c'est ce que dit très bien, effectivement, Giorgio Agamben, c'est-à-dire que le temps messianique, et donc, d'une certaine façon, effectivement, l'action même de l'espérer, doit se porter d'abord sur, il dit le rachat, je dirais pas le rachat, mais sur la compréhension, et d'ailleurs, le livre de Daniel emploie ce mot, sur la compréhension du mal que nous avons commis et qui nous a été fait. Il ne peut pas y avoir d'espérance sans ce travail de compréhension et sans ce temps donné nécessaire à la compréhension du mal. Celui qu'on nous a fait, celui que nous avons fait. C'est une lecture même de l'histoire qui est impressionnante. Hein. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de dénouement historique heureux, si vous voulez, si, effectivement, on ne se donne pas ce temps-là de compréhension du mal qui a été fait, du mal de l'histoire, d'une certaine façon. Donc, en ce sens, oui, espérer, c'est d'abord se tourner vers le passé pour essayer de le comprendre. On ne le dit pas souvent, mais c'est vrai. Voilà,
donc, c'est pas espérer quelque chose, c'est intransitif en réalité.
Alors, c'est ce que dit beaucoup Giorgio Agamben. Bon, il le dit. Effectivement, je pense que chez lui, l'espérance est intransitive beaucoup.
Voilà, et pour vous ?
Non, mais moi aussi, parce que c'est ce qu'on peut lire, par exemple, chez Paul beaucoup. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai essayé d'écrire de façon plus simple, finalement, mais c'est la façon. C'est une phénoménologie de l'espérance, si vous voulez. C'est-à-dire que l'idée de l'espérance, c'est effectivement de faire advenir quelque chose que nous n'avons pas et de vivre dans la possession de ce que nous ne possédons pas. Voilà. Et ce temps-là, qui n'est pas fait pour durer, forcément, évidemment, c'est un temps d'énergie, voilà, vitale. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas tendu comme ça dans la possession de ce que vous ne possédez pas, eh bien, effectivement, peut-être que très vite, la vie peut vous paraître fermée. Enfin,
c'est l'autre nom du désir. Posséder ce que nous ne possédons pas, s'être tendu vers quelque chose qui nous manque. Sans manque, il n'y a pas de désir.
Tout à fait, sauf que dans l'espérance, d'une certaine façon, l'invente. Puisque l'espérance est un acte volontaire, le désir, c'est plus compliqué. Mais l'espérance est un acte volontaire où on dit, voilà, j'espère... J'espère la venue du Messie, j'espère le...
Mais justement, alors, vous prenez cet exemple du Messie, faut-il croire pour espérer ? Faut-il avoir une forme de foi pour pouvoir investir l'espérance de ces vertus bénéfiques ?
Non, en tout cas, par exemple, chez Paul, c'est inversé. Il ne saurait y avoir de foi sans espérance.
Foi, j'entends pas forcément chrétienne, ni religieuse, d'ailleurs.
On retrouve ça dans les premiers textes du jeune Marx, où il explique comment effectivement la révolution, le sentiment de révolution, enfin cette idée d'un monde meilleur entre nous est une idée qu'il qualifie de religieuse justement, et il dit pour que cette idée-là naisse, il faut l'espérance. Voilà.
Oui, Marx est parfois plus religieux que Paul lui-même, ça c'est vrai. Une dernière question sur on a commencé par là, mais encore un point sur la distinction entre espérance et espoir, et notamment chez les philosophes qui écrivent sur l'espoir, mais de manière négative. Je pense à Camus notamment, qui dit que l'espoir, espérer, c'est se résigner. Or, vivre, c'est ne pas se résigner. Voilà pourquoi il ne faut pas investir dans l'espoir, ce dont on dépouillerait le présent par le même geste. Est-ce que la même chose pour l'espérance, finalement ? Est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'une des vertus de l'espérance, qui serait de nous ouvrir impossible, d'inventer le désir, comme vous dites, se comprendrait parce qu'elle nous détacherait d'un présent trop douloureux ? Chez Camus, le présent n'est pas forcément source de douleur, donc c'est pour ça que l'espoir peut être mortifère. Dans ce que vous décrivez, c'est l'inverse.
Non, parce que dans la situation du livre, oui, mais d'abord, je dirais deux choses par rapport à ça, c'est que c'est un risque à prendre, l'espérance, ouais, bien sûr, c'est un risque à prendre, et après, oui, c'est-à-dire que c'est une façon d'habiter la vie, effectivement, l'espérance. Alors, est-ce que espérer, c'est forcément... c'est forcément renier le présent ou moi je ne crois pas, au contraire, parce qu'il n'y a pas de vraie espérance qui ne se fonde pas dans une lecture du présent et dans une habitation du présent. Ouais, c'est pas possible.
Ouais. Et cette force que nous donne l'espérance de voir au-delà du présent, bon, soit on est dans un messianisme, dans une forme de mystique, vient-elle d'ailleurs, vient-elle d'un infini, ou est-ce que c'est vraiment en nous que se trouve cette ressource-là ? C'est pas une question psychologique, non, hein, c'est vraiment pour le coup celle de l'origine de cette espérance.
Moi, je pense que, en tout cas, je préfère penser que ça vient en nous, effectivement. Et c'est ce que j'explique aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de commencement, il n'y a que des recommencements. Et chaque recommencement est un produit de l'espérance, enfin. Ouais. Et je crois que, en tout cas, je pense que espérer est une force intime avant tout, et que voilà, je vois pas comment on pourrait s'en priver.
Là où le corps attend, c'est le titre de votre livre qui est paru aux éditions POL ce mois-ci. Et c'est un lieu en particulier. Vous arrivez à le situer?
Ce qui est beau, c'est cette phrase de la Bible, effectivement. Qui fait, justement, ce lieu est indéfini. Ce lieu, c'est le lieu, alors à proprement parler, c'est le lieu que donne à voir l'espérance. Voilà.
Merci beaucoup Frédéric Boyer d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.
Here Comes the Sun, ce sont les Beatles qui nous accompagnent en cette fin d'émission avec vous, Frédéric Boyer. Ici arrive le soleil, mais aussi Géraldine Bosna-Savoie pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour chère Géraldine.
Bonjour chère Adèle et bonjour à tous.
Alors, votre journal de la philo revient tous les jours sur une actualité liée à la philosophie, on va dire les mots en entier, hein. Actualité de la philosophie. Alors, quelle actualité a retenu votre attention aujourd'hui?
Eh bien, c'est l'actualité tout court, Adèle, comme tous les vendredis, c'est elle qui a retenu mon attention. Et pour coller au thème de la journée spéciale sur France Culture, le retour des radicalités, c'est une arme tout à fait radicale sur laquelle je me suis aujourd'hui penchée et qui plane sur nos têtes.
La guerre n'est pas ce que souhaitent les États-Unis. Nous ne voulons pas la guerre maintenant, mais notre patience a des limites.
Les mots durs et la colère de l'ambassadrice américaine à l'ONU après le nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. Mais le monde semble bien impuissant face aux provocations de Pyongyang.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle fois, la Corée du Nord défie le monde de façon quasi unanime. La communauté internationale dénonce l'essai nucléaire de la nuit dernière.
Washington menace Pyongyang d'une réponse militaire massive si la Corée du Nord menace le territoire américain ou celui de ses alliés. Nouvelle escalade diplomatique et verbale à la suite du 6e essai nucléaire du régime de Pyongyang.
L'arme nucléaire, et oui, depuis le mardi 4 janvier et l'annonce par la Corée du Nord du premier tir de missile intercontinental, voilà le genre d'informations que l'on a pu entendre ou auxquelles on a pu s'attendre. Mais s'y est-on pour autant habitué? A-t-on pu s'habituer, c'est-à-dire s'accoutumer, se faire à l'idée, se rendre familière, l'idée inouïe de l'anéantissement de l'humanité tout entière? Car là, eh bien, l'enjeu philosophique du nucléaire poussé à concevoir l'inconcevable, imaginer l'inimaginable, rendre réel l'irréel d'une menace folle. Si l'impossible est possible depuis Hiroshima, l'impensable est-il lui aussi pensable?
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. He has been very threatening beyond a normal statement. And as I said, they will be met with fire, fury, and frankly, power, the likes of which this world has never seen before.
Le feu et la fureur telle que le monde ne l'a jamais vu. Donald Trump et ses menaces nous poussent à envisager ce feu et cette fureur, à voir se réaliser nos incertitudes, nos inquiétudes et l'incommensurable du nucléaire. Depuis les années 50, c'est d'ailleurs ce que plusieurs philosophes ont tenté de faire, entre autres Raymond Aron, Hans Jonas, plus récemment Peter Sloterdijk, et en 1957, et en pas moins de 700 pages, Karl Jaspers avec son livre « La bombe atomique et l'avenir de l'homme ». Alors dès le titre, on l'entend, il avait choisi d'aller plus loin que ce paradoxe de penser l'impensable, il avait choisi de voir, au contraire, dans la bombe, l'avenir de l'homme, d'en faire, je cite, « une forte chance de se ressaisir et même l'unique chance offerte de rénover notre politique ». Mais voilà, comment penser la renaissance de l'idée de destruction totale?
Monsieur le Président, les moyens techniques requis sont largement à la portée de n'importe quelle puissance nucléaire, même de la plus petite. Il suffit qu'elle ait la volonté de le faire. Mais comment est-il possible qu'un engin de cette espèce se déclenche automatiquement et qu'il n'y ait absolument pas moyen de le désamorcer? Monsieur le Président, non seulement cela est possible, c'est essentiel. C'est toute la raison d'être de cette machine. La dissuasion est l'art de provoquer dans l'esprit de l'ennemi la peur d'attaquer. Aussi, étant donné que la décision est prise par un procédé cybernétique irréversible, excluant toute intervention humaine, la machine infernale est terrifiante. C'est simple à comprendre.
7 ans après la parution du livre de Karl Jaspers, Stanley Kubrick n'ose offrir pour sa part le docteur Folamour, de quoi révéler encore sous une autre forme tout l'absurde de la bombe atomique. Et comme Karl Jaspers, il allait plus loin que cet absurde né du paradoxe de penser l'impensable ou de naître de la destruction. Il ne faisait pas seulement de la bombe une possibilité, mais une nécessité. Car oui, envisager de faire disparaître la bombe nucléaire ou sa menace est aussi fou que la bombe elle-même. Il faut plutôt y voir une nécessité, il faut bizarrement l'accepter, la penser, pour s'en émanciper, pour s'en dissuader. Non pas pour la rendre raisonnable, mais pour être nous-mêmes raisonnables. D'où toutes ces dernières très belles pages de Karl Jaspers sur le courage de la raison et son exigence, malgré la nécessité que chacun pense en homme libre. Face à la radicalité de la bombe, la radicalité de la raison.
Vous faites allusion à la journée spéciale radicalité qu'organise aujourd'hui France Culture, Géraldine.
Exactement, Adèle.
J'ai saisi la perche au vol. Merci Géraldine, votre chronique est à retrouver sur votre site, le journal de la philo. Et merci à Pauline Vermeeren qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine, Jacques Hubert qui était à la prise de son aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo de l'Antiquité, mais oui, jusqu'à nos jours, l'occasion de réfléchir sur ce qu'est le jeu, de nous demander ce qui distingue le réel du virtuel et de prendre au sérieux ce qui est trop souvent relégué aux oubliettes. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter, nous attendons vos remarques et commentaires. Sur le site internet des Chemins de la Philosophie, vous retrouverez les informations musicales, bibliographiques concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez réécouter et télécharger, podcaster cette émission afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous à lundi donc, 10h, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.